Merci beaucoup d'être là nombreux et d'avoir résisté aux sirènes de la plage qui est pourtant bien tentante aujourd'hui. Et on a eu de très belles introductions qui ont vraiment dressé un tableau très clair de la situation. On va essayer de rentrer un peu dans le détail. Et c'est une longue présentation parce qu'en fait, on a regroupé deux. C'est des choses qu'on traite normalement en deux fois, mais c'est intéressant de les imbriquer parce qu'elles sont très liées. Vous allez essayer de le comprendre. Alors, tout commence. Donc, on va essayer de faire un petit point d'abord. Il y aura un tout petit historique pour rappeler d'où on vient, hein, et comment on a pu faire le diagnostic. Et comment on est arrivé aujourd'hui à avoir les premières esquisses de traitement qui traitent le fond de la maladie, qu'on appelle les disease modifiers, qui visent à ralentir, voire arrêter, mais c'est encore un peu plus compliqué, la progression de la maladie. Ce qu'on cherche tous à obtenir, et il serait cette fameuse victoire qu'on attend et qui arrivera, on en est sûr. Et enfin, les perspectives avec ces questions, effectivement, d'évaluation du risque, de prévention, qui sont au cœur du sujet, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire ici et maintenant, tout de suite, et qui portera ses fruits, qui porte déjà ses fruits. Parce que l'épidémiologie montre qu'en traitant l'hypertension artérielle, on a déjà réduit le nombre de démences. C'est un facteur de risque de détérioration cognitive qui s'allie à la maladie d'Alzheimer et qui contribue à ce déficit terrible. Voilà. Ça, cette cellule rose, c'est une merveille de la nature, c'est le neurone. Le neurone, c'est une espèce d'arbre, comme vous voyez, avec à gauche des racines et à droite des branches, des ramifications. Et ce neurone, c'est une cellule hyper spécialisée, aboutissement d'une longue évolution, et qui a un rôle bien défini, qui est de transmettre un signal. Elle reçoit un signal par ses racines, qu'on appelle les dendrites, et elle l'émet après ce long tronc à distance vers d'autres neurones. Elle a une autre spécificité, c'est d'être plastique. Elle a une grande plasticité. Donc elle est capable en permanence de jouer de ses ramifications, d'en développer de nouvelles, d'en réduire d'autres, de façon à développer des réseaux. Et ce qui fait la richesse de votre cerveau, de notre capacité à communiquer, à agir ensemble, ce sont ces réseaux multiples, ces réseaux qu'on a développés dans notre cerveau et qui sont la source de tout ce qu'on sait faire, de nos apprentissages. En permanence, on développe des racines, on développe des ramifications, et en permanence, ce qu'on fait, ce qu'on cherche à savoir, à retenir, fait qu'on conserve celles qui sont pertinentes et qui nous aident à agir intelligemment, de façon en principe appropriée, sauf quelques cas psychiatriques, et à exclure ce qui n'est pas probant, ce qui n'est pas pertinent. Et voilà comment se construisent nos réseaux qui font la richesse de cet organe fabuleux qu'est notre cerveau. Et là, de temps en temps, il y a des bugs. Et il y a une personne que vous connaissez bien, Alois Alzheimer, qui a, en 1907, analysé le cerveau d'une patiente qu'il a vue dans son établissement pendant 5 ans, qui a été rentrée à 50 ans dans un état de démence. État de démence, ça veut dire démence, elle avait perdu l'esprit, elle n'était plus capable de s'orienter dans le temps, dans l'espace, de savoir qui elle était, de s'occuper d'elle-même. Elle était devenue complètement dépendante jusqu'à son décès. Et il s'est dit, il faut que j'aille voir dans son cerveau ce que j'y vois. Et il a vu des choses. Il a vu des lésions, que voici, désignées par la flèche verte et la flèche jaune. Lésions qu'on appelle dégénérescence neurofibrillaire, qui est à l'intérieur du corps de la cellule, c'est la flèche verte, et des lésions qu'on appelle plaque sénile amyloïde, dépôt amyloïde, qui est désignée par la flèche rouge. Et il a fallu attendre de nombreuses années, des décennies, avant qu'on identifie de quoi étaient faites ces anomalies. Elles sont faites en fait de protéines. Une protéine, c'est une longue chaîne d'acides aminés, protéines qui sont anormalement gérées par l'organisme et qui les fait qu'elles s'agrègent et développent ces lésions. La protéine Tau développe une phosphorylation anormale, elle reçoit un radical phosphore, fait qu'elle se déforme et qu'elle a cette capacité de s'agglomérer. Donc au lieu de son rôle physiologique, qui est de maintenir ces longues structures, les axones et les dendrites qui permettent de jouer ce rôle de câble aux neurones, elles se vrillent, elles empêchent le passage de l'information et le neurone dégénère. L'autre anomalie, elle est à l'extérieur de la cellule, c'est la flèche rouge, ce sont ces dépôts amyloïdes. C'est un morceau d'une protéine, elle aussi protéine normale, qui est anormalement coupée, anormalement tronquée, et ce résidu, lui aussi, acquiert la propriété de s'agréger et crée ces plaques qui, elles aussi, jouent un rôle néfaste, détruisent les synapses, les communications entre neurones s'appellent les synapses, et contribue aussi à asphyxier ce neurone et à empêcher le passage de l'information et à détruire le neurone. Alors, il y a eu évidemment, on a cherché à comprendre quel rôle jouaient ces deux anomalies. Et il y a eu deux écoles, il y avait deux lésions, deux écoles. Certains s'en tenaient pour l'hypothèse tau comme étant à l'origine de tout. L'autre disait non, c'est l'amyloïde. En faveur du tau, il y avait la conjonction entre le fait que c'est mieux corrélé avec les troubles cognitifs. Mais en faveur de l'amyloïde, il y avait le fait que beaucoup d'anomalies génétiques connues, les formes familiales qui sont rares, mais qui sont déterminantes, c'est-à-dire que si on hérite de cette mutation anormale, on a 100% de chance de développer la maladie. Ces mutations-là, elles jouent sur la fabrication d'amyloïdes en excès et dégénèrent, provoquent la maladie. C'est le cas aussi de la trisomie 21. Vous connaissez bien, il y a trop d'amyloïdes parce qu'il y a ce chromosome 21 qui porte ce gène et qui se développe en excès et qui donc, trop représenté, génère la fabrication d'excès d'amyloïdes. D'autre part, il y a aussi des gènes qui sont dits à risque. Ils ne sont pas déterminants, mais ils augmentent le risque. Et ces gènes aussi, ils agissent sur l'amyloïde. Donc, beaucoup de facteurs génétiques font penser que l'amyloïde est responsable de la maladie. Et finalement, c'est l'hypothèse qui, jusque récemment, a été la plus explorée. Et on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est ce qui a le plus avancé aujourd'hui. Donc, la cascade amyloïde, je vous le montrais, c'est l'histoire. On démarre de l'amyloïde qui fait que le phosphotau s'accumule et qui fait que les neurones dégénèrent. Et là, en fait, on a un peu complexifié l'image aujourd'hui. On pense qu'en fait, il y a une synergie entre les deux pathologies. Je pense que la vérité, elle est beaucoup plus proche de cette interprétation-là. C'est-à-dire que, d'une part, avec le vieillissement, comme l'a dit le docteur Dadoucet, le vieillissement déjà, par lui-même, joue un rôle dans le risque de la maladie. Avec le vieillissement, vous accumulez un petit peu de désordre de taux dans la zone responsable de la mémoire. Et en parallèle, se développe la pathologie bêta-amyloïde, dans des zones plus périphériques du cortex, et quand les deux se rencontrent, la maladie explose et se développe peu à peu. Donc c'est la conjonction de ces deux facteurs. Et puis, in fine, se rajoutent les réactions inflammatoires, des anomalies de la barrière entre le sang et le cerveau, qui font que des molécules qui ne devraient pas être dans le cerveau s'y retrouvent, et tout ça contribue à la maladie. Donc la maladie se complexifie à mesure qu'elle avance. C'est un petit peu l'idée qu'il faut retenir. Donc deux lésions et une maladie qui se complexifie quand on avance davantage. Alors, l'histoire du diagnostic de la maladie, ça a été un siècle de progrès. Parce qu'on est parti avec Alzheimer, comme je vous l'ai dit, il a examiné le cerveau à l'époque, on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Il y avait l'examen clinique, bien sûr, on examinait les patients, on regardait leur sensibilité, leur réflexe, leur capacité à répondre, leur fonction cognitive. Et puis après, on regardait le cerveau, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de choses très sophistiquées. Donc, on est longtemps vécu dans cette incertitude avec un diagnostic un peu flou, en disant, oui, c'est une maladie, puis même, en plus, Alzheimer, c'était considéré comme une démence pré-sénile, parce que c'est une femme jeune chez qui c'était décrit initialement. Après, on s'est dit, non, finalement, c'est le même combat, il y a une démence de type Alzheimer qui couvre et des jeunes et des plus vieux, et le plus souvent des plus âgés. Et c'était assez tardivement, puisque c'est en 1984 qu'on a dit, si on veut faire de la recherche cohérente, il faut qu'on ait des critères communs. Des critères communs, donc on se met d'accord en disant ça c'est Alzheimer, ça c'est pas Alzheimer. Mais on butait toujours devant le fait que tant qu'on n'avait pas la pièce anatomique, tant qu'on n'avait pas le cerveau coupé et examiné sous le microscope, on n'était pas sûr. Et donc, le critère sur lequel on vivait, pour notamment la recherche clinique, c'était un critère de maladie d'Alzheimer probable. C'était pas très satisfaisant et il a fallu attendre encore quelques années. Et c'est en 2007 que le professeur Bruno Dubois a été le premier, alors l'idée, il n'a pas le seul à avoir l'idée, mais enfin, à écrire, à mettre sur le papier avec une équipe de chercheurs les critères intégrant la partie clinique et la partie biologique. Ça a été ensuite repris par les Américains. Donc au départ, cette notion qu'on avait un diagnostic flou et on avait enfin groupé la question, l'idée qu'il fallait avoir un critère clinique et un critère biologique pour arriver à fixer plus précisément le diagnostic. Et ce n'est pas anodin, parce que ces fameux critères dits de McCann, qui étaient des anciens critères, les premières fois qu'on avait essayé de faire un progrès en stéréotypant, en se mettant d'accord sur des critères, ils conduisaient à 30% d'erreurs diagnostiques, on s'en est aperçu après. 30% de cas qu'on pensait être de maladie d'Alzheimer, qui n'en étaient en fait pas. La conséquence, c'est que si on faisait des essais cliniques sur une population hétérogène comme ça, mixant des gens qui n'avaient pas la cible que visait le traitement essayé, évidemment, l'effet était dilué et on ne pouvait pas mettre en évidence l'effet bénéfique éventuel d'un produit. Alors, qu'est-ce que c'est que ces biomarqueurs dont j'ai dit que c'était une révolution qui a permis beaucoup d'avancées, qui était vraiment le départ de la recherche moderne sur la maladie d'Alzheimer. Donc, un premier bouleversement qui est un progrès considérable. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a dans les mains deux outils. Le premier outil, c'est un examen biologique, un examen biochimique. On va essayer de doser dans un liquide physiologique des produits qui témoignent de la maladie. Et on a effectivement un liquide qui est le liquide céphalorachidien qui baigne l'ensemble du système nerveux central. Il entoure le cerveau, il entoure la moelle épinière et on peut facilement y accéder à l'aide d'une ponction lombaire qui est un geste vraiment de routine en neurologie. On va chercher du liquide céphalorachidien, on l'analyse et on trouve des anomalies reflétant l'anomalie bêta-amyloïde, reflétant la pathologie tau. Et grâce à ça, on peut dire qu'on a vraiment un élément probant pour dire c'est une maladie d'Alzheimer. L'autre possibilité, c'est un examen scintigraphique avec des produits radioactifs qu'on a fabriqués et qui vont se lier aux plaques cérébrales. Et là, on va voir un alluage, des zones qui s'allument, que vous voyez en rouge, sur la slide du bas, et qui montre que là, il y a un signal anormal qui est dû à l'accumulation de protéines, de peptides bêta-amyloïdes, qui donc, le produit radioactif va se fixer à cette zone-là et donner cette luminescence qui témoigne qu'il y a un dépôt anormal. Donc, deux outils, scintigraphie et ponction lombaire biologique, qui permettent d'affirmer le diagnostic avec beaucoup plus de sécurité que sur les simples critères cliniques, qui sont toujours nécessaires, ceci dit. Et, progrès considérable, je ne vais pas m'y étendre parce que ce serait assez technique, mais on a réussi la prouesse, et ça, c'est les équipes suédoises qu'ils l'ont fait, avec notamment l'équipe de Kari Bleno de Göteborg. Kari Bleno, qu'on a le plaisir d'accueillir à la Salpêtrière grâce à l'aide, au soutien de la Fondation, de façon à développer un pôle français un peu plus avancé pour travailler sur cette question des marqueurs. Et ces Suédois donc, ont fait des prouesses technologiques permettant maintenant de diagnostiquer la même chose que dans le liquide céphalorachidien, mais sur une simple prise de sang. C'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable pour le malade, beaucoup plus facile à réaliser en dehors de sites un petit peu plus techniques. On va donc pouvoir, avec une prise de sang, tester un produit. Alors, c'est une protéine tau-phosphorylée un peu particulière, le PTO-217. Bon, ce n'est pas important de le retenir, mais enfin, elle existe. Et celle-là donne un reflet assez précoce de la maladie, permet de suivre son évolution et éventuellement permet de suivre son amélioration sous traitement. Donc un outil assez considérable et très puissant au service de la recherche pour l'instant, et peut-être bientôt de la clinique. Il faut valider ça à large échelle, parce que les contraintes de recueil, de traitement, etc. sont encore assez sophistiquées, mais ça avance extrêmement vite. C'est encore un progrès considérable, deuxième progrès considérable. Alors, bien sûr, in fine, on veut des traitements. Ça, c'est un schéma un peu compliqué, assez génial, de Jeff Cummings, qui est un Californien qui travaille sur l'Alzheimer depuis pas mal de décennies. Il est maintenant assez âgé, mais toujours aussi génial et brillant. Et il fait tous les ans avec son équipe une synthèse des traitements en cours, des études en cours sur la maladie. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. C'est très actif et on s'en réjouit parce que c'est en mettant toutes les forces derrière cette recherche qu'on va pouvoir avancer. Alors, beaucoup de produits, beaucoup de traitements, tout chaque point, c'est un produit en test, en gros. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Simplement, on va regarder plus précisément qu'il y a deux parties dans ce schéma. À gauche, des traitements symptomatiques. Traitements symptomatiques, ça veut dire, par exemple, vous avez un antitussif, il vous soulage de la toux, vous arrêtez le produit et vous retoussez, sauf si la maladie est passée. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un traitement qui agit sur le symptôme à court terme, et tant que le produit est actif. En fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est plus tellement ces traitements qui existent et qui ont leur valeur, hein, pour l'Alzheimer, bien sûr, que ce soit pour les troubles du comportement, que ce soit pour les troubles cognitifs. Il y a des choses à disposition, on n'est pas tout à fait désarmé. Mais c'est loin de ce qu'on veut réaliser, puisque, in fine, ce qu'on veut, c'est stopper ou au moins ralentir la progression de la maladie, ralentir ce train inexorable qui amène à cet état de dépendance et qu'il faut absolument vouloir éviter. Et donc, traitement de fond, ou traitement en anglais, disease modifier, il n'y a pas vraiment d'équivalent français, parce que traitement destiné à modifier le cours de la maladie, c'est un petit peu lourd, donc on parle généralement de disease modifier. Traitement de fond, ça peut aussi, je pense, être compris. C'est un traitement qui va essayer de traiter la maladie à sa source, pour vraiment couper cette évolution. Voilà un petit panorama de ce qui s'est fait depuis le début du siècle. Alors, en bleu, les traitements antitaux, tout de suite. Vous voyez qu'ils sont moins avancés, ça débute. On en dira un petit mot, mais ce n'est pas l'essentiel de ce sur quoi on va se focaliser, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait un petit peu l'actualité, c'est les traitements bêta-amyloïdes, dirigés contre l'amyloïde. Avec deux catégories, là encore, les plus jaunes pâles, c'est les traitements qui sont des molécules classiques. Globalement, c'est des traitements qui visent à empêcher la synthèse du produit en agissant sur une enzyme particulière. Voilà. Ça n'a pas bien marché, probablement parce que justement jusque-là, on avait des traitements pas assez ciblés sur le bon enzyme. Ils avaient des effets latéraux sur d'autres enzymes, ils débordaient un peu la fonction et il y avait des effets indésirables qui n'étaient pas accessibles, pas supportables, qu'on ne pouvait pas admettre. Donc cette piste pour l'instant est un peu ralentie. Ça redémarre avec des produits plus spécifiques. On sera probablement amené à en parler un jour et on l'espère. Ce qui est le plus avancé, c'est les traitements immunologiques, l'immunothérapie, comme on le fait aujourd'hui pour les cancers. Et ça donne des produits, des résultats, vous allez le voir. Mais au départ, il y a eu des échecs. Et puis maintenant, tout ce qui est cerclé de rouge, c'est les succès. Vous voyez que plus on approche de l'époque d'aujourd'hui, plus on a eu des succès. Et aujourd'hui, on a effectivement des traitements approuvés aux États-Unis. Je vais être amené à en reparler. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces traitements anti-amyloïdes? Bien sûr, c'est de couper cette cascade. Je ne vous ai pas encore montré ce schéma, mais qui est intéressant et qui est vraiment important à comprendre, c'est cette cascade. Ça démarre par l'accumulation d'amyloïdes, ici, cette courbe-là, puis un dysfonctionnement de la synapse, l'accumulation de la protéine tau, l'atrophie cérébrale, les troubles de la cognition et la dépendance. Vous voyez, cette cascade d'événements, c'est vraiment un engrenage dans lequel vous rentrez avec l'accumulation d'amyloïdes, et puis après, la suite survient jusqu'aux effets cliniques. Vous voyez que c'est finalement assez tardif par rapport au début des premières accumulations d'amyloïdes, et que c'est vrai, c'est probablement 15 à 20 ans plus tard qu'on commence à rentrer dans la phase de trouble cognitif léger, et puis la phase de démence, c'est-à-dire de dépendance. Et ce qu'on cherche à faire, c'est en coupant l'amyloïde, à arrêter la cascade, et à amener au moins le reste à rester en plateau et à rester dans l'état où on était et à ne pas se détériorer davantage. Alors, c'est des produits administrés en intraveineux parce que comme c'est des protéines au niveau de l'estomac, ce serait immédiatement dégradé par les enzymes, par l'acidité de l'estomac. Donc, c'est évidemment donné par voie intraveineuse.
Alors, moi, j'avais une question juste sur les diagnostics. Vous avez dit que pendant longtemps, 30% des diagnostics étaient erronés. Avec les progrès qui ont été faits, est-ce qu'on est sûr qu'en 2024, les personnes qui ont eu un diagnostic d'Alzheimer sont, de façon certaine, affectées par cette maladie?
Alors, je parle de façon très, 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 très sélectif, très sélectionné, donc je suis un peu embarrassé de répondre catégoriquement. Je pense qu'il faut nuancer.
Non, mais c'est important pour les personnes.
Oui, je pense qu'on peut considérer qu'un clinicien averti avec en main son examen clinique, les tests psychométriques et la biologie est capable d'affirmer, de confirmer le diagnostic. Alors, il faut nuancer parce qu'on s'approche, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des maladies associées, des combinaisons d'anomalies. Il y a d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy, la LET, la DFT, enfin, il y a un certain nombre de maladies qui sont des maladies neuroévolutives et toutes celles-là peuvent, peu ou prou, ressembler à la maladie d'Alzheimer, voire se combiner. Donc, la situation est un peu complexe. On cherche des biomarqueurs pour ces autres pathologies qu'on n'a en partie pas encore aussi avancées que pour la maladie d'Alzheimer. Donc tout ça se clarifie, on avance.
Est-ce que ces autres pathologies bénéficient de traitement? C'est-à-dire, est-ce que c'est une perte de chance pour des gens qui n'ont pas été diagnostiqués de façon...
C'est important justement parce qu'elles nécessitent des traitements, elles peuvent répondre à des traitements particuliers. Donc il est important de faire le tri, de faire un diagnostic précis. Et c'est pour ça qu'on va y revenir peut-être plus tard aussi. Quand on cherche à mettre en avant un diagnostic biologique accessible à tous pour savoir s'il a Alzheimer ou pas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut passer par une équipe médicale spécialisée qui pourra juger l'ensemble de la pathologie, voir ce qui se passe, comprendre les différentes les différentes anomalies qui convergent vers la pathologie que présente un malade. Un malade n'est pas égal à un autre malade. Donc vraiment, c'est une prise en charge individualisée qui doit rester, à mon avis, spécialisée.
Alors, une question, hein, puisque vous avez permis.
Oui, je voulais savoir à quel stade interviennent les biomarqueurs, quel stade de la maladie. Et je voudrais aussi savoir ce que vous pensez du rôle du médecin généraliste. C'est la première personne, le médecin de proximité, à qui vous avez affaire. Quand il vous reçoit 10 minutes dans son cabinet, comment voulez-vous qu'il sache si la personne a des tendances à avoir cette maladie? Moi, je trouve ça inquiétant. Parce que après, vous ne savez plus quoi faire. Quant au protocole, il concerne un échantillon de population. On sait pas où sont les protocoles, qui les fait. Et on en a connaissance après, quand on nous annonce les résultats.
Voilà, alors, vous avez tout à fait raison. Le généraliste est au premier plan. Le généraliste n'a pas de temps. Il n'est pas forcément formé. Je parle des plus anciens de ma génération. Il y a des plus jeunes aujourd'hui qui sont peut-être plus à même de gérer. Mais la question est vraiment importante et on va essayer d'y répondre un peu par la suite. Mais il faut leur donner des outils, en effet. Je pense que le généraliste doit rester la clé. Mais il faut donner des outils pour qu'ils puissent le faire et je vais essayer de vous en parler dans quelques
minutes. La prise de sang pourra peut-être faire évoluer les choses, ça vous allez y arriver.
Les nouveaux outils, voilà.
La prise de sang, mais avec beaucoup de précautions, je pense que vous allez en reparler.
Oui, tout à fait.
Ok, bah, écoutez, on va enchaîner, on laisse encore
d'autres questions. Allez, encore une question brûlante et puis on enchaîne.
Pardon, j'arrive.
J'aurais voulu savoir pourquoi ça touche plus les femmes que les hommes.
Alors c'est une très bonne question.
C'était vous, hein.
Deux réponses. Alors la première réponse, certainement, il y a un facteur démographique. Oui. Les femmes vivent plus longtemps. Le premier facteur de risque, c'est quand même l'âge, puisque plus on avance en âge, plus on aura de taux, plus on risque d'avoir la rencontre avec l'amyloïde, plus on risque d'avoir la maladie. Donc ça, c'est une réalité, mais ça ne suffit pas à l'expliquer. Et nous, Fondation Recherche Alzheimer, on a la chance d'avoir une équipe de Lille qui nous a proposé un projet de recherche spécifique sur chromosomes X et maladie d'Alzheimer. Et on espère avoir pas mal de réponses à travers cette étude par une excellente équipe de génétique qui est située à Lille.
Les formes purement génétiques atteignent aussi plus les femmes que les hommes concernant les formes purement génétiques?
Non, parce que les formes purement génétiques, c'est des mutations d'autres chromosomes qui ne sont pas des chromosomes liés au sexe. Et donc ça, c'est
elles affectent
le même
indifféremment.
Risque pour les deux.
Ok.
Pour les deux sexes.
Question, oui, tout au fond.
Bonjour. Ebixaricep, ces médicaments ont été déremboursés, me semble-t-il, sur recommandation de la HAS, parce que risque d'interaction et un rapport bénéfice-risque qui était mauvais, mais ils continuent à être prescrits parfois, donc non remboursés. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on ne gagne qu'un point sur le MMS en plus au niveau
clinique. Je crois que la communauté Alzheimerologie de française est tout à fait vent debout contre ce déremboursement qu'elle trouve injustifié et inapproprié. C'est des traitements qui ont un risque comme tous les médicaments. Il n'y a pas de médicament absolument dénué de risque. C'est des médicaments qui, bien utilisés chez les bons patients, au bon moment, rendent un service. Il faut les essayer et c'est dommage qu'ils soient déremboursés. Voilà, c'est la position, je crois, de la plupart des spécialistes du sujet aujourd'hui en France.
Est-ce que ça n'a pas contribué aussi au fait que les médecins généralistes sont très mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas grand-chose? Est-ce que le fait qu'on les ait privés de molécules et les a un petit peu...
Ça peut être le cas. En fait, ceci dit, ils n'étaient pas autorisés à prescrire ces produits-là, qui devaient être proscrits par des gériatres, des psychiatres, des neurologues. Je crois que c'est tout.
Oui, bonjour. Je voulais revenir sur un sujet que vous avez brièvement abordé là, dans les minutes qui précèdent. Il y a Alzheimer et puis les maladies apparentées, dont une, justement la MCL, maladie à corde de Lewy, dont on parle beaucoup moins. Mais je voulais savoir si ce dont vous avez parlé concernant effectivement les traitements de fond peuvent s'appliquer aussi au traitement de cette maladie, éventuellement, ou pourront s'appliquer.
Donc, sous réserve de la possibilité d'association à une maladie dont on sait qu'elles sont fréquentes, non, la MCL pure ne répondra pas au traitement spécifique de l'Alzheimer qui vise la protéine amyloïde qui n'est pas concernée dans la MCL, dans sa forme isolée, évidemment. Mais elles sont souvent associées, donc les choses sont toujours plus compliquées dans la réalité.
D'accord, oui, ce que dit monsieur est important, c'est-à-dire est-ce que quand on fait de la recherche, on peut espérer dans tout le champ des maladies neurodégénératives qui globalement augmentent, Parkinson, Lewy, etc.
Ça peut arriver, par exemple, on sait que toutes ces maladies finalement sont liées à l'accumulation d'une protéine anormale.
Oui.
Donc si on arrive à trouver le produit miracle qui va empêcher les protéines anormales de se développer et de s'agréger, peut-être qu'on aura le traitement miracle, la panacée. Bon, j'en suis pas certain aujourd'hui, mais tout est possible. Aujourd'hui, on cherche plutôt des traitements assez spécifiques qui ont une cible très précise, qui correspond plutôt à une maladie.